bonsoir. Entrons ensemble dans le temps du débat. Heureux de vous retrouver ce soir pour une émission enregistrée à distance, dans le temps et dans l'espace, puisque nous sommes chacun chez nous, rassemblés grâce aux techniciens qui continuent d'œuvrer à la Maison de la Radio, à Radio France. Dans la plupart des pays touchés par le coronavirus, la crise a provoqué un recentrage de la parole publique sur le discours de l'État et de ses représentants. Conférences de presse quotidiennes de Donald Trump, plus espacées pour Angela Merkel ou encore beaucoup plus rares pour Emmanuel Macron. Tout cela a conduit les citoyens des pays démocratiques à attendre du soutien dans l'épreuve, bien sûr, mais aussi des consignes de comportement. Les agents de l'État, fonctionnaires de santé, des impôts ou de police sont ainsi apparus indispensables quand la crise avait arrêté d'autres activités. Mais dans chaque pays, des tensions se sont fait jour entre l'échelon national et l'échelon local, gouverneurs démocrates contre Donald Trump aux États-Unis, maires et conseils régionaux ou départementaux en tension avec le gouvernement en France ou encore président de Länder contre pouvoir fédéral en Allemagne. Sans compter, dans les interstices, une société civile et des associations tentant de colmater les brèches d'une impréparation générale face à la pandémie. Alors, l'État est-il le plus à même pour nous protéger? C'est la question que nous posons ce soir à nos trois invités. Volker Schöndorff, cinéaste, qui nous répondra depuis Berlin, où il vit, mais qui connaît si bien notre pays qu'il pourra peut-être comparer la situation en Allemagne et en France. C'est d'ailleurs un point qu'il a abordé dans le texte qu'il nous a confié pour notre conversation mondiale sur le site de France Culture. Olivier Christin est historien, directeur du Centre européen des études républicaines, le CEDRE. Il enseigne à l'École pratique des hautes études, mais il enseigne aussi à Neuchâtel, en Suisse. Et enfin, Anne Desine est avec nous. Elle est professeure émérite à Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des États-Unis et autrice entre autres des institutions des États-Unis à la documentation française, c'était en 2014, mais également les États-Unis et la démocratie à l'Harmattan l'année dernière. Volker Schöndorff, bonsoir. Vous êtes évidemment cinéaste. On vous connaît pour beaucoup de vos ouvrages, de vos œuvres justement cinématographiques. Dans le texte que vous nous avez confié pour le temps du débat sur la conversation mondiale qui est publié sur le site de France Culture, vous parlez à propos de ce qui nous arrive collectivement dans le monde entier d'expérimentation géante. Une expérimentation géante qui vous surprend parce que d'un seul coup, tout le monde se retrouve à l'unisson, un peu partout dans le monde, mais évidemment, on voit des réactions différentes dans chacun des pays, et c'est ce qui vous a intéressé, Volker Schöndorff.
Ben oui, je trouve que c'était un peu la globalisation à l'œuvre, vraiment, mais parce que qui aurait pensé qu'on pourrait faire un expériment, un test avec 7 milliards de participants. Là, les chercheurs et les statisticiens ils doivent être ravis de ce qu'ils vont raconter comme données à la fin de tout ça. Et donc, plutôt que la division qui effectivement s'est faite, ce qui me frappe, c'est plutôt l'unisson. On s'intéresse à savoir qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe en Afrique. On n'en sait rien, pratiquement d'ailleurs. Moi, je suis pas du tout ennuyé par la crise. Je trouve que c'est passionnant. J'essaie de suivre au jour le jour. Et je me dis qu'on est quand même privilégié de vivre ça.
Et d'ailleurs, ce que vous notez, c'est des différences selon les régimes politiques. Évidemment, vous connaissez très bien le régime français, sa centralisation, son caractère jacobin, mais également l'Allemagne, que vous connaissez fort bien puisque vous êtes vous-même allemand et vous vivez à Berlin. Et vous voyez qu'il y a peut-être une surprise à vos yeux de voir des réactions aussi différentes à la fois des populations, mais aussi des gouvernements face à une crise qui est semblable.
Oui, ce qui m'a surpris surtout, c'est le côté très très radical dont le contact entre les gens a été interrompu en France d'une façon draconienne. Je comprends pas non plus pourquoi il y a tant de différences d'ailleurs dans les victimes et dans les cas entre la France et l'Allemagne où pourtant nous avons pratiquement le même système d'assurance sociale, d'hôpitaux, de médecine et tout. Je considère que tout ça, c'est pratiquement au même niveau. Que c'est curieux que les Français qui passent pour être peu obéissants se soumettre à des mesures aussi draconiennes et que les Allemands qui passent pour être trop obéissants à l'État, finalement chacun fait un peu ce qu'il veut dans les différents Länder, voire dans d'une ville à l'autre, pour ne pas parler des individus, au fait que pratiquement à Berlin on n'a presque pas l'impression qu'il y a le couvre-feu, c'est-à-dire que les gens sont dans les parcs, ils sont dans les rues, les uns portent masque, les autres pas. C'est quand même très curieux que à l'œuvre, finalement, les gens se comportent autrement que selon leurs clichés.
Et cela, Olivier Christin, vous qui êtes historien, j'ai rappelé, vous êtes spécialiste du protestantisme, spécialiste également des guerres de religion, mais vous vous intéressez au régime républicain pour diriger le Centre européen des études républicaines. Est-ce que ça vous surprend également, ou est-ce que vous qui enseignez à la fois en Suisse et en France, par exemple, vous vivez à Lyon ces temps-ci, le confinement, est-ce que cela fait une véritable différence et se justifie par peut-être une histoire, par une vision différente du rapport à l'État, par exemple?
Oui, bien sûr. Bonsoir. Je partage pleinement l'avis de Volker Schlöndorff, que c'est à la fois une expérience universelle ou mondiale, et puis une épreuve hein, au sens de Luc Boltanski, une épreuve de vérité, qui vient accuser les différences des traditions politiques, des compositions sociales des pays, des niveaux de richesse, les différences sociales, les différences urbanistiques. Volker Schlöndorff rappelait qu'à Berlin, on peut être dans les parcs, on peut circuler plus facilement. Ma fille est confinée à Berlin, dans un quartier qui ne doit pas être très loin. L'urbanisme berlinois, c'est pas l'urbanisme parisien. La densité d'habitation est pas la même. Et donc on voit bien sûr que cette crise fait jouer des traditions politiques, accuse les différences entre les pays. Le confinement en Suisse repose beaucoup, peut-être comme en Allemagne, aussi sur l'intériorisation de la nécessité et moins l'intervention répressive de l'État, et plus l'autodiscipline, l'intériorisation. Est-ce que c'est lié à une tradition protestante? Ce serait compliqué de le montrer. Mais c'est vrai qu'il y a des écarts qui sont très significatifs, et que pour l'instant, on ne comprend pas le lien entre ces écarts et les écarts de létalité qu'évoquait Volker Schlöndorff. Pourquoi beaucoup plus de morts dans tel ou tel endroit? Et je trouve que la question, du coup, qui nous rassemble ce soir est la bonne, c'est-à-dire quel rôle de l'État et quel État, de quel État on parle et de quoi on parle quand on parle d'État.
Eh oui. Anne Desine, vous qui êtes spécialiste des États-Unis, qui vivez en France, est-ce que la question posée du rapport à l'État est très différente selon que l'on se situe d'un côté ou l'autre de l'Atlantique, et en particulier depuis le début de cette crise? Anne Desine, bonsoir.
Bonsoir. Alors d'abord, c'est effectivement la bonne question, parce que cela fait des années qu'on s'interroge, l'État est-il en train de disparaître au profit du niveau supranational en Europe, par exemple, ou du niveau infranational, les régions françaises ou les régions européennes? Et là, avec la crise, l'État est de nouveau totalement au centre. Alors, pour les États-Unis, il y a une petite question de terminologie qui est intéressante et qui n'est pas sans incidence. C'est que lorsqu'on parle d'État aux États-Unis, « state », on utilise le mot uniquement pour les États fédérés, les 50 États. Et le niveau fédéral s'appelle « government ». Et la crise actuelle s'inscrit dans un contexte historique et culturel long de méfiance vis-à-vis de l'État fédéral et d'hostilité même, si l'on pense au mouvement du Tea Party en 2010. Cela étant, la crise est révélatrice d'un certain nombre de choses. Elle est révélatrice des présupposés culturels sur le rôle de l'État. Justement, cette méfiance du côté états-unien vis-à-vis de l'État, alors que du côté français, l'État, c'est à la fois le bouc émissaire, coupable de tout ce qui va mal, mais l'État dont on attend le salut. Et c'est un peu ce qui se passe, et à mon avis, qui explique en partie la discipline des Français en période de confinement, alors que c'est vrai qu'ils ne sont pas très disciplinés habituellement. La deuxième chose qui est révélée par la crise, ce sont les failles structurelles du côté américain. Et c'est intéressant, après des années de dérive à droite par les républicains, qui à chaque fois cherchaient à limiter le peu de filet social qui existait, la couverture médicale mise en place par Obama, là on voit bien que la crise est accentuée justement parce qu'il n'y a pas de filet social, parce qu'il n'y a pas d'assurance chômage, d'assurance maladie, de sécurité sociale au sens français, et aussi en raison du tissu social extrêmement polarisé. on en vient à une situation assez incroyable où les États dirigés par des gouverneurs démocrates ont mis en place un confinement assez semblable à celui que nous avons en France. Et les États dirigés par des républicains, suivant la ligne politique du président, disent non, 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 c'est une petite grippe, et sont en train de réautoriser l'ouverture de l'État de la Géorgie ou des plages en Floride. Donc la crise, à mon avis, sera plus grave aux États-Unis qu'elle ne l'est en France.
Alors évidemment, on va comparer pendant toute cette émission justement ces rapports à l'État très, très différents. Par exemple, l'existence, on en parlera peut-être un peu plus tard avec vous, Anne Désine, de cette tradition libertarienne que l'on connaît aux États-Unis qui se manifeste ces temps-ci. Mais Olivier Christin, c'est vrai que vous qui travaillez sur la comparaison des républiques, des républicanismes à travers le monde, puisque c'est le but de ce Centre européen des études républicaines, est-ce que justement cette forme républicaine, on a vu beaucoup ressortir ces temps-ci l'image du Léviathan de Hobbes, qui a été reprise par plusieurs penseurs qui essayaient de réfléchir justement à cette façon dont on se donnait à un État dont on considérait qu'il était à la fois protecteur, mais qui pouvait peut-être à un moment ou à un autre aussi limiter nos libertés au nom de l'intérêt commun. Est-ce que cette question-là est une question relativement partagée, et cette confiance, comme vient de le dire Anne Désine, qui n'était pas présente avant la crise, qui d'un seul coup reviendrait justement à l'occasion de cette crise?
Oui, c'est un peu le paradoxe de un retour de confiance ou un retour d'une attente à l'égard de l'État, comme l'a dit Anne Désine, à l'égard d'un État qui n'a cessé lui-même de se délester d'une partie de ses fonctions, d'une partie de ses missions, d'une partie de ses moyens, en estimant que le mal absolu avant le coronavirus était la dépense publique, et qui a mené une politique sur des années de réduction du nombre de fonctionnaires, se trouve brusquement placé au premier plan. Et donc toute cette question, peut-être que le modèle du Léviathan paraît lointain et répond à des questions qui étaient assez loin de l'État sanitaire ou de l'État social, mais la question est bien de savoir quel type de quoi on parle quand on parle de l'État vient au secours. On le voit bien dans le cas américain qui a été évoqué, où, au fond, on pourrait se demander si les libertariens ne sont pas au pouvoir du government, pas dans les states, mais qu'il y a une lutte entre deux manières de penser l'État. Et c'est la même chose en France, où d'un côté, on peut penser que l'État libéral ou l'État néolibéral qui devait dégraisser le mammouth n'est pas forcément le mieux placé pour répondre aux attentes actuelles, et qu'il n'a, en tout cas, certainement pas mis les moyens de son côté. Mais par ailleurs, l'expérience des gouvernements populistes montre que l'état du populiste, si ça existe, ou Bolsonaro ou Orban, avec toutes les différences qu'il peut y avoir, n'est pas non plus celui qui apporte les réponses les plus rassurantes à cette crise, en excitant ou en exagérant les égoïsmes nationaux et les solutions à l'emporte-pièce, qui passent aussi par le déni de la gravité de la situation.
Une des caractéristiques d'une crise, c'est de changer la donne, d'une certaine façon. On peut dire, Kirchendorf, que avant cette crise, eh bien, on sentait une sorte de dessaisissement du pouvoir d'Angela Merkel, qui se trouvait d'un seul coup considéré comme quelqu'un qui allait quitter le pouvoir et donc qui était en train de sortir de la scène. Et puis d'un seul coup, une crise comme celle-ci l'a fait revenir sur le devant de la scène, dans des tensions que nous évoquerons avec vous un peu plus tard, peut-être avec les dirigeants de Länder parfois, mais néanmoins qui donne une place particulière à celle qui dit « nous marchons sur la glace la plus fine qui soit » ou « nous sommes loin d'être tirés d'affaire » et qui a regagné en popularité de façon considérable, et justement montrant que la confiance dans une personne comme elle pouvait être très importante pour gérer une crise comme celle-ci.
C'est-à-dire que, comme on dit en anglais, it comes with the territory. Une fois que la crise est là, effectivement, s'il y a un leader, un vrai, ou une chancelière, ou un président, automatiquement, il gagne en autorité, puisque dans la crise, tout le monde se tourne, vers le père qui va tout arranger. Dans ce cas, vers la mère qui va tout arranger. Et effectivement, Merkel, qui était vraiment, on peut pas dire en chute libre, mais enfin qui avait beaucoup, beaucoup perdu de son ascendant, là, depuis la crise, tout le monde trouve que elle fait ça très bien. Pourquoi elle le fait très bien? Parce qu'elle le fait d'une manière très calme, Évidemment, tout le monde dit, bah oui, évidemment, c'est une scientifique, elle s'y connaît en physique, donc elle s'y connaît en chiffres. Mais c'est plutôt son côté pas de panique qui impose et qui rappelle un petit peu tout le monde, allez, soyons sérieux.
Et c'est peut-être aussi parce qu'elle insiste, elle insiste beaucoup, excusez-moi de vous couper, Volker Schöndorff, mais elle insiste beaucoup sur le caractère démocratique de l'Allemagne. Elle dit, en fait, elle parle moins de pouvoir que de démocratie, et ce qui justifie sa façon d'agir. Elle dit, nous sommes une démocratie, nous ne vivons pas dans la contrainte, mais d'un savoir partagé. Et le président Steinmeier dit aussi, nous sommes une démocratie vivante, avec des citoyens conscients de leurs responsabilités, nous écoutons les faits, les arguments, nous faisons confiance. Tout cela, évidemment, c'est une attitude, justement, la confiance vis-à-vis de l'État. On sait qu'elle était mise à mal dans certains pays avant la crise. Eh bien, c'est très important dans un moment de crise, justement, de montrer sa modestie, ses tâtonnements, de laisser voir, justement, des erreurs potentielles en disant, eh bien, la crise, nous ne la maîtrisons pas totalement, mais nous essayons de faire au mieux, Volker Schöndorff.
Oui, elle a aussi, articulé la phrase ou le mot, c'est un défi à la démocratie. C'était peut-être un peu mal exprimé. Elle a dit c'est un défi démocratique. Non, en fait, ce qu'elle a voulu dire, c'est un défi à la démocratie. Et elle dit ce n'est pas de bon cœur que j'assume l'autorité. Ce qui est quand même très drôle parce que c'est un petit peu, on a l'impression qu'au contraire, le président français, il est très content d'assumer enfin la responsabilité totale. Ça, c'est très, très différent. Et finalement, il y a même le Bavarois qui dit, après la crise, il va falloir que nous nous pardonnions beaucoup les uns aux autres. Ce qu'il veut dire, c'est que simplement, nous allons tous essayer des voies différentes. Nous avons des opinions différentes. Et ben, à la fin, on va faire le bilan et on va bien voir que les uns ont eu tort et les autres ont eu raison.
Oui, sur ce point, Olivier Christin, on voit que c'est très différent en France, que par exemple, effectivement, la question du civisme, la question de ce qu'il faut faire chacun ou en petit groupe pour pouvoir résoudre la crise se pose au fur et à mesure que cette crise avance et que nous approchons du déconfinement. Eh bien, il y a justement un accord vis-à-vis des positions de l'État au tout début, cette union nationale qui était voulue par le gouvernement et par Emmanuel Macron, puis au bout du compte, eh bien, la vie reprend ses droits, la vie politique en particulier, et on voit bien que petit à petit s'instille la discorde, la capacité en tout cas de faire un jeu démocratique et de dire ben, nous voulons bien de cela, mais pas de cela.
Oui, absolument. C'est exactement ce contexte d'annonce du déconfinement ou du début de la fin du confinement remet au centre du débat la question de la participation de la société civile, des associations, des acteurs de terrain. On le voit bien déjà avec les régions, les présidents de régions, les départements, comment rouvrir les lycées sans que les régions soient parties prenantes et les maires. Et on le voit bien aussi avec qui va prendre en charge la livraison de nourriture dans les quartiers en difficulté auprès des populations fragiles, des SDF, des migrants dont on parle beaucoup moins mais qui sont eux aussi concernés par le virus. Et au modèle du Léviathan que vous avez évoqué, sur lequel j'ai pas vraiment répondu, mais qui quand même est un modèle où les citoyens renoncent à leur liberté pour être protégés, on pourrait opposer d'autres modèles politiques dans lesquels les citoyens volontairement participent à la défense général du bien commun et de l'intérêt général, par exemple autour des figures de dévouement, de civisme, de désintéressement qui vont prendre tellement d'importance à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Moi, je pense par exemple au poème sur le désastre de Lisbonne de Voltaire, sur la participation à la souffrance des autres, la compassion, une politique de la pitié, qui reviennent et qui vont être essentielles dans les semaines qui viennent.
Juste une remarque sur la compassion. Est-ce que c'est la compassion au niveau des nations ou est-ce que c'est vraiment une compassion mondiale pour ceux qui vont évidemment beaucoup moins bien que nous en Europe?
Vous avez raison que la compassion entre nations, nous ne l'avons pas vraiment réussi pour l'instant.
Voilà.
Vous écoutez Le Temps du Débat, une émission consacrée à la place de l'État, ce qu'on attend de l'État dans les différents pays touchés par la crise du coronavirus. On se retrouve dans un instant.
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
Nous voilà donc avec nos trois invités, avec le cinéaste Volker Schoendorf depuis Berlin, avec Olivier Christin, historien, spécialiste des questions républicaines en particulier, et avec Anne Desine. Anne Desine, vous êtes professeure émérite à Paris-Ouest Nanterre, vous êtes spécialiste des États-Unis. Quand on évoque cette situation et le rapport à l'État, c'est vrai qu'on a une situation très particulière avec les États-Unis. Voilà un président qui est accusé par le gouverneur de l'État de Washington, Donald Trump, est accusé de fomenter la rébellion intérieure dans la façon qu'il a de considérer le rôle des gouverneurs, en particulier des gouverneurs démocrates, et leur pouvoir dans la gestion de la crise.
Oui, il y a en fait deux niveaux dans cette question. Il y a le niveau de la culture politique, et les Américains ont toujours placé la liberté bien avant l'égalité, qui n'est devenue réalité en fait que très tardivement et qui est sérieusement remise en question maintenant. Et puis à l'équilibre des pouvoirs et la séparation des pouvoirs. Et ce qu'on voit avec ce président, depuis son entrée en fonction, c'est qu'il viole allègrement les normes à la fois constitutionnelles et les normes non écrites, en portant atteinte à la séparation des pouvoirs, au pouvoir du Congrès, au pouvoir des juges, etc. Et là, effectivement, lorsqu'il a annoncé de but en blanc, sans en avoir parlé à quiconque, « Moi, je vais obliger les gouverneurs, les gouverneurs des États à réouvrir leurs économies », c'était relativement prématuré, disons, et deuxièmement, tous les analystes constitutionnels disent qu'il n'a pas ce pouvoir. La Constitution établit un équilibre extrêmement compliqué, un peu flexible, mais avec des limites, un équilibre entre le pouvoir fédéral et le pouvoir des États. Or, le pouvoir fédéral, c'est une liste de pouvoirs, justement énumérés à l'article 1, section 8 de la Constitution, et les États fédérés ont tout le reste du pouvoir, et ce qu'on appelle en anglais, c'est un petit peu trompeur, « police powers », et c'est tout ce qui touche à la sécurité, à la santé. Donc la sécurité et la santé, cela dépend bien des gouverneurs. Mais ils ont un problème, qui est un problème financier, parce qu'il faut que le gouvernement fédéral leur envoie de l'argent. Et c'est là qu'on trouve les libertariens, qui depuis plusieurs décennies veulent une non-intervention de l'État et avec comme corollaire un équilibre budgétaire. Ils sont toujours très attachés à l'équilibre budgétaire lorsque ça les arrange, parce que c'est un mot de code. S'il y a l'équilibre budgétaire, il n'y aura pas d'argent pour les programmes sociaux. Et là, Trump se trouve en porte-à-faux et du jour au lendemain, il doit abandonner tout ce mythe anti-État pour comprendre qu'il faut signer le texte voté par le Congrès, en fait quatre lois votées par le Congrès, pour un total de 3 000 milliards de dollars. Alors, à titre de comparaison, le budget fédéral, c'est 4 000 milliards annuels de dépenses et 3 300 milliards de dollars de recettes. Donc là, en quatre lois votées pour faire face à la crise, nous avons le montant du budget total qui est voté par le Congrès, y compris les Républicains, y compris les Libertariens, et qui est signé avec allégresse par le président Trump, qui essaie de regagner tout le bénéfice du vote de la loi, y compris en ajoutant son nom dans les chèques qui sont envoyés aux contribuables, au nom du Trésor des États-Unis.
Ce qui est intéressant, Olivier Christin, quand on compare justement ces situations de rapport à l'État au milieu d'une crise, c'est qu'on voit que ce ne sont pas des libertariens qui, par exemple, dans un pays comme le nôtre, en France, critiquent la présence ou la trop grande présence de l'État. Ce sont des gens qui viennent de la gauche, parfois de l'extrême gauche. Ce sont, par exemple, Étienne Balibar, dans Le Monde récemment, qui dit, à propos de l'intervention étatique, elle peut être financière, répressive, régulatrice, réparatrice, adaptatrice, mais l'État qui revient aujourd'hui est dirigiste, paternaliste, potentiellement autoritaire, éventuellement discriminatoire, ou encore, c'est l'historien Samuel Hayat, spécialiste du 19e siècle, qui dans un billet disait récemment qu'effectivement c'était ces États démocratiques que nous connaissons, et le nôtre en particulier, n'avaient pas affronté la crise avec des moyens différents d'autres États qui sont qualifiés d'autoritaires, le secret, le mensonge, le pouvoir de contrôle sur les corps intermédiaires ou sur les citoyens. Tout cela nous dit qu'il y a aussi des gens qui considèrent que cet État qui est en train de se reforger peut-être à la faveur de la crise n'est pas l'État en tout cas qu'ils souhaitaient.
Oui, c'est, vous avez raison de mentionner ces textes qui sont des textes importants. On pourrait aussi citer un texte, je crois, sorti aujourd'hui ou hier de Laval et Dardot dans le journal AOC sur quel État et est-ce que l'État néolibéral...
Spécialiste des communs, effectivement. C'était dans la revue AOC en ligne, effectivement.
Qui sont très proches
d'une pensée foucauldienne de Foucault ou qui sont aussi, d'une certaine façon, qui peuvent se rapprocher de certains textes du philosophe Giorgio Agamben sur l'État qui peut être effectivement attentatoire aux libertés.
Oui, oui, absolument. Et qui soulève au fond deux problèmes. L'un, c'est peut-être le péché originel de la gestion de la crise, qui a été extrêmement centralisé, conformément à une tradition jacobine, centralisatrice française, avec peu par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne, peu de concertation avec les présidents de région et les maires dans un premier temps, peu d'ouverture vers la société civile, un peu des mesures très rapides et une rhétorique guerrière qui n'était pas forcément le meilleur choix qu'on pouvait faire, la première ligne, la deuxième ligne. On s'aperçoit que les gens qui étaient en troisième ligne...
Il faut dire qu'on en est sorti de cette... Le gouvernement en est sorti de cette rhétorique guerrière assez rapidement, d'ailleurs.
Heureusement, début, oui, absolument. Le deuxième point, peut-être, que ces textes soulèvent, c'est qu'au fond, on a l'impression d'une succession d'états d'urgence qui finissent par faire de l'urgence un état permanent de l'État. Il y a l'état d'urgence contre le terrorisme, contre les risques écologique et climatique, et maintenant l'état d'urgence sanitaire, qui chaque fois avec des raisons impérieuses, très fortes et légitimes, font des choix très rapides qui rognent de l'intérieur ou qui évitent de l'intérieur l'état de droit, comme le montrait très bien François Sureau. Et de ce point de vue-là, l'alliance entre les nouvelles technologies de traçage et de surveillance et un état d'urgence peut inquiéter.
On en reparlera demain dans l'émission, effectivement.
Mais peut inquiéter.
Oui, sur ce point, Volker Schöndorff, c'est vrai que le cas allemand est un peu différent parce que on voit bien combien le pouvoir de la chancelière est de négocier avec les dirigeants de Länder, les ministres présidents des 16 Länder. Elle est obligée de les consulter. C'est autre chose qui se met en place, mais aussi c'est un pouvoir qui peut être contesté par une force montante en Allemagne, c'est-à-dire l'AfD, l'extrême droite, avec Alexander Gauland, je crois, qui dit, un des leaders de l'AfD, qui dit ce n'est pas le rôle du gouvernement d'édicter les règles, c'est le rôle des citoyens, Volker Schöndorff.
Oui, mais heureusement, personne ne l'écoute. Alors, aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite a pratiquement disparu de la scène publique depuis qu'il y a la crise, parce qu'on sent bien qu'ils n'ont rien à proposer, qu'ils essaient d'en profiter, et personne ne vraiment les écoute. Ce qui est intéressant, c'est au contraire le débat presque trop virulent, puisque la chancelière a parlé d'une orgie de débat, la Bavière, par exemple, a appliqué des mesures pratiquement comme en France, avec interdiction de sortir, de se rassembler. D'autres pays avec autant d'habitants que la Westphalie Rhineland, ils sont très très ouverts et beaucoup moins réglés, et déjà commencent à ouvrir les maternelles et les parcs. Et c'est parce que ça me paraît pas que l'un a plus raison que l'autre, mais chacun est confronté à une situation différente, et il me semble que déjà preuve est faite que là, des structures fédérales sont plus adaptées pour y réagir.
Oui, et d'ailleurs, on voit aussi dans ce dégel que on peut noter justement vis-à-vis de cette situation qui était à un moment gelé dans tous les pays pour pouvoir justement faire face au plus dur de la crise. On voit dans ce dégel se libérer des paroles. Olivier Christin, on voit par exemple, c'était ce dimanche dans le JDD, le journal du dimanche, à la fois les Républicains qui disent eh bien il faudrait aller plus vite dans le déconfinement, par exemple, mais aussi on y voit des libéraux comme Hervé Novelli, Gérard Longuet, Virginie Calmels ou encore le plus politologue Dominique Régnier, signe un texte commun qui dit qu'il faut libérer la société pour sortir de la crise. Le secteur privé a été flexible et réactif pendant la crise, il n'a pas démérité. Ce qu'on a vu, c'était plutôt une impuissance publique, et donc ils disent que l'État, certes, est important, mais qu'il faudrait laisser plus de place au privé. Donc les champs sont ouverts d'une certaine façon, Olivier Christin.
Oui, les champs sont très ouverts. Les champs sont très ouverts, mais on ne peut pas réduire justement cette ouverture à d'un côté une puissance publique affaiblie qui n'aurait au fond plus d'existence que comme état pénal, judiciaire, répressif et plus vraiment les moyens de l'intervention, et de l'autre côté l'énergie du privé, la souplesse, l'adaptabilité formidable de livreurs, de sociétés de livraison à domicile. Il faut souhaiter que le débat intègre aussi des acteurs non gouvernementaux de la société civile, des associations. On peut s'inquiéter, par exemple, d'où en sont les associations comme Emmaüs, des associations qui ont vocation à intervenir dans cette crise, et surtout au moment du déconfinement, à prendre en charge des populations en grande difficulté. Je ne suis pas certain que le privé le fera, et le fera par passion humaniste. Et c'est peut-être là où la tradition républicaine, les traditions républicaines qui m'intéressent, ont été affaibli considérablement, où le discours républicain en France a été capté comme discours d'autorité, notamment sur la question de la laïcité, et plus comme discours du dévouement, de l'engagement, de l'investissement, de la solidarité. Et peut-être qu'il est important de réinvestir ce domaine-là aussi.
Mmh. Amdézine, on voit qu'il y a un véritable débat dans la presse américaine, chez les communistes, chez tous les gens qui font des éditoriaux et des prises de position dans des tribunes, dans les grands journaux. On voit qu'il y a un grand débat sur la question justement de la démocratie américaine et de la façon dont elle va s'en sortir. Alors on connaît les positions du prix Nobel d'économie Paul Krugman, qui dit dans le New York Times récemment, la démocratie américaine peut mourir de cette crise, tandis que les règles autoritaires sont en embuscade. Ça fait partie des visions les plus noires vis-à-vis de cette crise, mais néanmoins on voit bien qu'il y a une crainte que ce qui faisait le sel de la démocratie américaine, de cet imaginaire qui depuis plus de deux siècles nourrissait la vie politique aux États-Unis, a été profondément touché par ce qui est en train de se passer.
Oui, en fait cela a commencé avec l'élection de Trump. Trump a été le révélateur de tout ce qui n'allait pas. Parce que ce qu'explique Krugman, ce qu'il craint, et à mon avis à juste titre, c'est qu'il y a eu depuis au moins une quinzaine d'années une détérioration de tout ce qui fait les États-Unis tels qu'on aime à se les représenter. Et en fait, cette représentation est devenue un petit peu mythique. Ces États-Unis n'existent plus parce que le système politique est bloqué en raison de la polarisation. Aucune loi ne peut être adoptée, aucun budget ne peut être adopté. Tout ça, c'est du bricolage. Et donc Trump a pu simplement entrer dans un système bloqué dans lequel la présidence était déjà extrêmement puissante pour encore ajouter à la puissance du président, et en nommant 200 juges dans les juridictions fédérales, empêcher que l'un des freins à cette dérive autocratique ne puisse fonctionner, parce qu'il y a maintenant un quart des juges fédéraux qui ont été nommés par Trump. Beaucoup d'entre eux sont extrêmement idéologisés. Certains ne sont pas compétents et il faut craindre que ce qui s'est passé au début de son mandat, où les juridictions se sont opposées à des actes qui étaient des abus de pouvoir, ne se passe plus. Donc il y a cette dérive-là. Mais une partie de la population, et parmi les démocrates, certains ont pris conscience que la dérive actuelle allait en parallèle à la perversion du système capitaliste, les inégalités dont nous parlent Piketty et beaucoup d'autres. Et que donc ce qui va se jouer dans les élections de novembre, c'est à la fois une réforme démocratique qui devrait permettre d'amener une majorité progressiste qui pourrait revenir sur certaines des règles qui ont complètement détruit ce que nous pensons être les États-Unis.
Néanmoins, il faut dire tout de même, Anne-Désine, que des gens qui ne sont pas particulièrement des progressistes dans la politique américaine, comme Henry Kissinger, qui maintenant, je crois, fête ses 94 ou 95 ans, a déclaré dans le Wall Street Journal que, effectivement, aucun pays ne pouvait vaincre le virus sur la base d'un effort purement national. Et évidemment, c'est une pierre dans le jardin de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on voit bien que la question du recours, ça n'est pas simplement la question du recours à l'État central ou à l'État national, mais c'est aussi la question du recours à des instances qui peuvent être supranationales, alors qu'il combat lui-même depuis longtemps le multilatéralisme, par exemple.
Oui, alors effectivement, c'est un gros problème. Les États-Unis ne peuvent plus compter sur leurs alliés parce que les États-Unis ont sanctionné l'Europe, les États-Unis ont cette guerre commerciale avec la Chine, et donc il y a eu tout ce balai, la Chine a très bien fait son travail, la Chine nous a menti, etc. Donc du jour au lendemain, le président Trump change d'avis. Cela étant, oui, bien sûr, il faudrait qu'il y ait une recherche au niveau international, qu'il y ait vraiment des échanges d'informations. Et c'est le moment que choisit le président pour retirer le financement de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui a été critiqué à droite comme à gauche aux États-Unis. Et vous avez raison de parler de Kissinger. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs éditoriaux maintenant, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, de républicains qui disent ben, je ne l'ai jamais fait, mais non seulement je vais voter pour un démocrate, mais je vous invite à voter pour un démocrate. Il y a un groupe de républicains dont le mari, George Conway, de Kellyanne Conway, la conseillère de Trump, qui a formé un groupe de conservateurs, de vrais conservateurs, qui vont faire campagne contre Trump. Donc il y a une prise de conscience que Trump, en révélant tout ce qui allait mal et en l'amplifiant, va peut-être rendre possible un sursaut. Et à cet égard, le virus, c'est encore une étape franchie dans la prise de conscience que ce n'est pas en continuant d'agir et de diriger comme cela que les choses pourront s'arranger.
Oui, alors évidemment, on a toujours rêvé, en particulier ceux qui sont hostiles à Trump, qu'il arrive quelque chose de ce style, mais on attendra effectivement les élections pour savoir si ce type de prophétie peut être réalisée. Volker Schlöndorff, un des niveaux auxquels on n'a pas fait référence depuis le début de cette émission, c'est le niveau supranational, le niveau européen. Vous avez signé avec d'autres la question de faire une politique de soutien massif à l'ensemble des pays et surtout de partage des coûts et de faire un emprunt global donc pour que tous les pays d'Europe qui participent à l'Union européenne puissent être, sauvés de cette crise. Pourquoi, tout compte fait, on n'a pas confiance dans cette Europe et pourquoi, au bout du compte, quand il s'agit d'aller chercher un protecteur, alors on sait que l'Europe n'a pas dans son champ de compétences la santé, on est allé vers les États-nations et non pas vers justement cette dimension européenne.
Effectivement, il y a les eurobonds, la solidarité européenne, elle est absolument nécessaire, incontournable si l'Europe doit survivre, ce que j'espère, mais dans le cas de l'Allemagne, la chancelière, elle perdrait ses électeurs si elle utilisait le mot « eurobond ». Donc, tout ça, c'est un peu du « window dressing ». On change les appellations, mais en fait, j'ai l'impression qu'avec le grand paquet de soutien là qui est en train de se mettre en place, c'est bel et bien une solidarité matérielle qui va se faire en Europe. Et ça me paraît d'autant plus important parce que là, on a beaucoup parlé des États et du point de vue juridique étatique, mais en fait, il s'agit quel est le fondement de l'Europe, et c'est quand même les fameuses valeurs occidentales. Alors, c'est quoi? C'est d'abord la vie, la dignité de la vie et la dignité de l'homme qui doit être protégée plutôt que le bien-être matériel. Or, c'est ça le vrai débat qui, en ce moment en Allemagne, c'est pas entre le centre et les franges latéraux, mais c'est plutôt, mais qu'est-ce qui est important finalement, la vie d'un homme ou le bien-être de la moyenne des hommes? Et curieusement, Le qui est protestant de Stuttgart, qui est pratiquement l'éminence grise du parti chrétien-démocrate, aujourd'hui a dit finalement le bien-être de la moyenne de la population est plus important qu'une vie individuelle. Un retour à couper le souffle, parce qu'il dit il ne s'agit pas c'est pas la vie qui est sacro-sainte, c'est la dignité de l'homme. Or, si la survie des uns met en question la dignité d'une grande moyenne de la population, et ben à ce moment-là, ben il faut sacrifier cette vie-là. Moi je trouve que c'est un débat à couper le souffle. On voit très bien les pièces que Sartre ou Camus après-guerre auraient pu faire là-dessus.
Oui, et on voit effectivement combien les cartes vont être rebattues. Olivier Christin, je vais vous donner la parole en dernier dans cette discussion, parce que ce que nous avons évoqué, ce sont des scénarios, et on sait qu'il y en a autant qu'il y a d'individus qui pensent sur cette terre, des scénarios de sortie, et que évidemment on ne peut pas savoir comment on va sortir, ni aux États-Unis, ni en Allemagne, ni en France, ni en Europe, de cette crise.
Oui, on ne peut pas savoir. Il y a autant de scénarios que de forces politiques ou de têtes. Mais ce que vous venez de dire, ce que vient de dire Volker Schlöndorff, c'est essentiel. Il me semble que pour ce qui nous concerne, au plus proche, c'est une chance pour l'Europe, que l'Europe ne doit pas la rater, ne doit pas laisser passer. Après, les défauts de solidarité qu'on a pu voir au moment de la crise grecque, de la crise financière grecque, ou de la crise migratoire, ou des questions migratoires, où l'Europe n'a pas été à la hauteur des espoirs humanistes et démocratiques qu'on pouvait placer en elle, c'est l'occasion. Et c'est l'occasion de se rattraper et de faire exister cette Europe comme pôle démocratique et humaniste dans un monde difficile.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir sacrifié une partie de votre dimanche, car cette émission a été enregistrée hier, donc de votre dimanche, pour participer à ce débat du temps du débat, cette ouverture de semaine, donc autour de la place de l'État et de la façon dont on peut lui faire confiance. Merci à vous, Volker Schlöndorff, depuis Berlin, à vous, Anne Desine, depuis Paris, et à vous, Olivier et Christin, depuis Lyon, où vous vivez ces temps-ci. Merci également à toute l'équipe du temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Manon Prisset qui continuent chaque jour, en même temps que nous préparons ces émissions, de publier un nouveau texte d'intellectuel, d'artiste ou d'écrivain. On peut d'ailleurs retrouver le vôtre, mais ainsi que 25 autres textes, Volker Schlöndorff, pour nourrir ce qu'on appelle la conversation mondiale sur le site de France Culture. Merci également au service web de France Culture et également pour la technique qui nous a permis d'être rassemblés alors que nous étions tous chez nous, à Jean-Marc Clos, Marie-Christine Vesli, Christian-Denis Le Sel, à la technique aujourd'hui José Bernays et Jean-Paul Lafaverge, et à la réalisation Alexandre Manzanares. Demain, nous aborderons dans le temps du débat la question des libertés publiques. On a évoqué très brièvement cette question-là, en particulier à propos du traçage numérique. Nous en parlerons beaucoup plus longtemps demain, en temps de Covid-19, justement. Comment, peut-on garder ces libertés et faire en sorte que ces lois sanitaires très exceptionnelles que nous avons eues pendant quelques semaines ne durent pas tout le temps. Merci et à demain.